Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Pour ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, je suis allée au planning familial à Marseille, au 106 boulevard National, rencontrer Sacha et Julie. Aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement d'un travail qui a été mené au planning sur les questions de racisme structurel et de comment ça vient toucher les activités du planning et l'équipe. Cette formation, elle est arrivée dans un contexte particulier au planning. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces différentes étapes ?
Comme on est une association de lutte contre les violences et contre les discriminations, c'est présent dans notre pratique de réfléchir à comment on participe de reproduire ces violences et ces discriminations ou pas. Enfin, pour dire ça, c'est peut-être un peu le contexte général qui fait que au sein de l'association du planning familial, il peut y avoir des formations qui viennent permettre de la mise en questionnement.
Sacha, salariée du planning familial.
Et par rapport plus spécifiquement au racisme structurel, il y a aussi eu le fait qu'on a pu être interpellé au planning sur le fait de est-ce qu'on reproduit justement et qu'à des moments on peut reproduire même de manière non volontaire du racisme. Cette interpellation, elle a fait aussi un effet de mise en questionnement au sein de l'équipe et de besoin de se dire comment on va penser ces enjeux-là, sachant qu'au planning familial 13, dans l'association, la question du sexisme est très présente, mais la question du racisme n'est pas notre objet principal de travail. Pour autant, c'est un enjeu qui est transversal et du coup, il y a un vrai intérêt à venir le travailler. Au niveau du sexisme ou au niveau des rapports de genre, on vient aussi réfléchir à nous où on se situe. Et par exemple, au planning familial, on est une équipe où il y a majoritairement, une très grande majorité de femmes ou de personnes qui ont été assignées femmes à la naissance. Du coup, ça fait partie de avec quoi on vient aussi dans les groupes, avec quoi on vient dans l'écoute. Et on est aussi une équipe où il y a majoritairement des personnes blanches, une grande majorité de personnes blanches. Et par contre, on reçoit et on accompagne beaucoup de personnes qui peuvent être des personnes racisées. Et du coup, je peux se poser la question, comment dans ce rapport d'accompagnement, d'écoute, ce rapport asymétrique qui peut exister, comment on le réfléchit ? Est-ce qu'on l'analyse comme un rapport de domination ? Comment ça traverse le fait de se situer en tant qu'association majoritairement blanche ?
Vous avez suivi il y a quelque temps une formation avec Approche Culture et Territoire sur les questions de racisme structurel, notamment dans le cadre de votre métier ici, de conseillère et conseiller conjugaux et familiaux. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer ce que ça implique pour toi de suivre une formation sur ces questions-là ?
C'est un peu l'occasion de pouvoir mettre en pratique des choses qu'on n'a pas forcément le temps de discuter entre nous, entre collègues. Sachant qu'on est quand même dans un contexte assez blanc, hein, ici. Je veux dire au niveau des salariés, des bénévoles, et d'un public qui l'est pas forcément.
Julie, salariée du planning familial.
Ce côté d'approche centrée sur la personne à laquelle on est formé permet de faire quelque chose où l'accueil est inconditionnel et tout ça, mais je crois qu'il faut pas, non plus être trop naïf sur nos préjugés et le regard qu'on peut porter malgré nous et pourquoi un entretien on va le mener de telle manière ou de telle manière avec telle ou telle personne. Alors ça peut être parce qu'on a des préjugés positifs, hein. C'est pas forcément quelque chose où on vient être en conflit avec les gens qu'on reçoit, mais voilà, en tout cas de passer un peu ce cap de la naïveté liée à une neutralité qu'on aurait de par l'apprentissage de notre approche centrée sur la personne qui peut être tout à fait relative de notre point de vue situé. Enfin, de mon point de vue situé, je vais parler en mon nom, peut-être.
Pour moi, c'était un moment qui était très vulnérabilisant de partager, du coup, une mise en questionnement intime, personnelle, mais de la partager collectivement et en étant accompagnée par les formatrices. C'était du coup un moment important dans les affects que c'est venu brasser. Et que de venir justement exposer, discuter, brasser ces affects, c'était comme un préalable pour après pouvoir mieux penser ces enjeux-là. Et j'ai l'impression qu'il y avait vraiment cette première étape de se dire bah, oui, c'est avec tout ça qu'on arrive, en fait, c'est comme ça que c'est avec toutes nos histoires que le racisme structurel traverse, quelle que soit notre place dans la société, il nous traverse. Et du coup, ça, de pouvoir commencer à voir comment il nous traverse et comment il nous traverse, c'est chargé, ça nous charge d'affect, de douleur, de honte, de blessure, enfin, tout ça accompagne et que ça soit dit, ben, j'ai l'impression que c'est comme une première étape qui n'est pas forcément finie dans le temps, enfin, qui peut se prolonger après la formation et à bien d'autres moments, mais en tout cas qui, moi, me paraissait vraiment un temps nécessaire pour moi et personnellement et dans mon travail et dans le lien avec l'équipe.
Sororité, la solidarité politique entre les femmes. L'idéologie de la suprématie masculine incite les femmes à penser qu'elles ne valent rien tant qu'elles ne sont pas liées ou unies à des hommes. On nous enseigne que les relations que nous entretenons les unes avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de l'enrichir. On nous enseigne que les femmes sont naturellement ennemies des femmes, que la solidarité n'existera jamais entre nous parce que nous ne pouvons et ne devons pas nous unir les unes aux autres. Nous avons bien appris ces leçons. Nous devons les désapprendre pour construire un mouvement féministe durable. Nous devons apprendre à vivre et à travailler dans la solidarité. Nous devons apprendre le véritable sens et la vraie valeur de la sororité. Alors que le mouvement féministe contemporain aurait dû former les femmes à la solidarité politique, la sororité n'a pas été envisagée comme un accomplissement révolutionnaire que les femmes s'efforceraient d'atteindre par la lutte. Tel que la concevaient les mouvements de libération des femmes, la sororité se fondait sur l'idée d'une oppression commune. Il va sans dire que ce furent surtout les femmes de la bourgeoisie blanche, de tendance libérale ou radicale, qui cultivèrent la notion d'oppression commune. L'oppression commune était un mot d'ordre mensonger et malhonnête qui masquait la véritable nature de la réalité sociale vécue par les femmes, sa complexité et sa variété. Les attitudes sexistes, le racisme, les privilèges de classe et toute une kyrielle d'autres préjugés divisent les femmes. Quand nous nous engageons activement en nous aidant mutuellement à comprendre nos différences, à corriger les idées fausses ou déformées, nous posons les fondements de l'expérience de la solidarité politique. Pour en faire l'expérience, nous devons avoir une communauté d'intérêts, de croyances et d'objectifs autour desquels nous unir et construire la sororité. La solidarité nécessite un engagement durable et permanent. Le mouvement féministe a besoin de la diversité, du désaccord, de la différence pour grandir. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Nous pouvons être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons pour mettre fin à l'oppression sexiste, unies dans la solidarité politique.
J'ai l'impression que dans ces enjeux-là aussi, il y a pas mal de qu'est-ce qu'on porte comme culpabilité personnelle versus le fait que comme c'est un problème structurel, c'est quelque chose aussi qui nous dépasse. Est-ce que tu arrives, toi, à te situer par rapport à ça ?
J'ai l'impression que le monde dans lequel on est, du fait de l'histoire du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation, la possibilité en fait de produire de participer au racisme en tant que rapport de pouvoir structurel qui nous dépasse, ben c'est là parce que ça nous dépasse et ça nous traverse les deux à la fois. Là, moi en tout cas personnellement, en tant que personne blanche, de pouvoir exercer du racisme même sans le vouloir, j'ai l'impression que du coup, ça fait traverser des affects comme la peur. On a pu en parler d'ailleurs le jour de la formation. Et j'ai l'impression de pouvoir reconnaître qu'en fait, il y a ces affects et quelque part, ces affects... sais pas, on peut travailler à partir d'eux, il n'y a pas à les cacher, il n'y a pas à être au-delà de ces affects. Et que c'est au contraire presque en les disant et en les partageant qu'on peut arriver aussi à se comprendre, s'écouter, peut-être aussi lutter ensemble avec les différences d'histoire et de positionnement qu'on a. Mais j'ai l'impression que si on n'en passe pas par là, il y a quelque chose qui ne se... une puissance qu'on n'aura pas aussi. Enfin, et moi, je l'ai fort senti ça au moment de cette formation. Et que du coup, quelque part, sur cette question-là, vécu individuel face à violence structurelle, ben, j'ai l'impression qu'une manière de pouvoir faire face à cette violence, par exemple en travailler à ne pas reproduire du racisme structurel quand on est une personne blanche, ou en tout cas à venir lutter contre au moins, et ben c'est j'ai l'impression que c'est en passant par ouais, qu'est-ce qu'on, comment il nous traverse affectivement et intimement, ouais, qu'on va pouvoir aussi se relier peut-être plus facilement à d'autres et lutter ensemble, quoi.
Ça a bougé quoi, cette formation-là, en toi et dans ce que tu peux pratiquer au quotidien ici ?
Dans ce que je peux pratiquer au quotidien, au boulot, je ne sais pas si j'arrive encore à le détecter. Par contre, moi, en tant qu'individu, ça a bougé pas mal de trucs, et je crois que le fait d'être en formation aussi avec des collègues, des bénévoles et tout ça, ça a remis pour moi un moment, en fait, qu'on n'a pas eu depuis longtemps, je crois, enfin en tout cas de mon expérience ici, de pouvoir partager et d'élaborer un peu ensemble aussi, et de remettre du collectif aussi au sein de ces réflexions-là. Alors après, est-ce que moi, ça bouge en moi, c'est une chose, je crois que ça m'a un peu... fait revoir mon rapport à la culpabilité en tant que blanche. Il y a vraiment quelque chose que je retiens de cette formation, c'est ce côté, en fait, en tant qu'être humain, si on trouve quelque chose de scandaleux, allons-y, en fait, nommons-le, et sans avoir peur de prendre la place d'eux. Je crois qu'il y a vraiment une différence à faire entre ces deux choses. Est-ce que ça a pu bouger en moi ? Alors, je vais peut-être me planter, hein, et c'est pas grave, d'ailleurs, mais... De si je trouve... qu'il y a quelque chose de craignos, que ce soit dans ce cadre-là, lié à cette oppression-là, qu'est le racisme, ou d'autres, en fait, ben voilà, je crois que ça vaut quand même le coup de le dire.
Alors, à l'issue de la formation, elles vous ont notamment demandé d'écrire un petit texte. Est-ce que tu peux nous le lire, du coup ?
Oui, tout à fait. Alors, nous ont proposé de faire un tour à la fin de la formation avec deux questions. Une première, c'est comment j'ai vécu cette journée. La deuxième, c'est avec quoi j'ai envie de repartir. Et on l'a tous et toutes partagé après en groupe. Donc je lis le premier. Comment j'ai vécu cette journée. J'ai aimé cette journée, qu'elle soit traversée d'affects, de nos histoires, de nos blessures. Nous sentir pris et prise dans la grande histoire du racisme structurel, sentir que chacun, chacune en est traversé, les échos, aussi que les nœuds soient partagés et que les émotions soient accueillies par chacun, chacune et par les formatrices. Reconnaître pour moi que ce sont des histoires, enjeux affectifs complexes et que lever la honte m'aiderait à les mettre davantage en récit. Par les mises en récit, histoire personnelle et situation professionnelle, j'ai déjà senti que j'avançais. Avec quoi j'ai envie de repartir ? Avec cette intention de continuer à préserver mon humanité, dans le lien à l'autre, accepter d'être traversé, interpellé par ses souffrances, les souffrances. Aujourd'hui, j'ai continué à prendre conscience que ces souffrances et violences sociales me blessent, mais j'ai envie de ne pas les nier. Envie aussi de sortir de la dialectique empathie à l'autre versus autoprotection, comme si pour me préserver, je devais me couper de l'autre. Pas envie de vivre avec cette opposition, ou c'est moi, ou c'est l'autre. Et peut-être que ça me donne aussi envie de partager, parce qu'une des formatrices, Rachida Brahim, nous a partagé son parcours et aussi dans ce parcours... le travail qu'elle a fait et à l'issue duquel et par lequel aussi elle a écrit du coup le livre « La race tue deux fois ». Et elle nous proposait de relever pendant qu'elle parlait les mots qui nous faisaient blocage et aussi les mots qui nous touchaient. Et moi, dans les mots qui m'ont touchée, j'ai noté la crise comme quelque chose de positif, le besoin de mettre en récit, le devenir politique de la douleur et continuer à préserver notre humanité.
Et alors, j'avais envie d'aller un tout petit peu plus loin aussi parce que je sais que tu es membre du CA plus large, en fait, du mouvement, puisque le planning familial, c'est un mouvement national aussi. Est-ce que tu penses que ces questions sont prises à leur juste mesure actuellement dans le mouvement, mais aussi sur l'aspect, parce que bah, voilà, le planning familial est engagé au niveau féministe, mais du coup, qu'est-ce que ça implique aussi sur ces questions-là? Et est-ce que tu penses qu'il faudrait mener un travail plus complexe aussi, y compris au niveau national, comme ça a pu être le cas ici à Marseille?
Oui, je pense que ce serait intéressant au niveau de l'ensemble des associations du planning familial et du coup de la confédération là, qui rassemble ces associations, de travailler sur le racisme structurel et comment il nous traverse et individuellement et en tant qu'association et dans nos positionnements. Et je pense, et aussi, voilà, aussi en partant du coup de nos histoires, ça me donne envie de dire, ah mais où est-ce que j'ai l'impression qu'on pourrait bah, du coup lutter aussi plus, quoi, plus et ou plus activement contre le racisme structurel au sein du planning. Du coup, ça me fait penser à des envies voilà, de transformation, de changement, et entre autres sur des dimensions quelque part de plaidoyer ou de positionnement politique public. Ça, c'est une chose, et que j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, la formation aussi avec ACT, ça... Ben, dans le fait que ça donne de la puissance d'agir, ben, ça donne aussi envie de porter du coup ces plaidoyers et ces positionnements. Mais ce qui est, il me semble, encore autre chose quelque part que le fait de venir que ce premier mouvement de se questionner, se remettre en question. Sur comment le racisme structurel nous traverse. Et que j'ai l'impression que là, en tout cas, ce avec quoi, moi, par exemple, j'ai pu arriver ou qu'on a pu porter aussi sur des besoins de transformation, ben voilà, c'est plus le registre du plaidoyer et c'est autre chose encore. Et du coup, ça serait intéressant peut-être que les deux mouvements aussi se relient plus. En tout cas, c'est sûr que... j'ai l'impression que et c'est des enjeux qui peut-être sont pas suffisamment présents ou en tout cas que peut-être justement sur comment le racisme structurel nous traverse, et ben il y a encore beaucoup de matières qui sont pas explorées, en même temps que il y a aussi une préoccupation ou des mouvement de lutte et de positionnement politique qui existe pour lutter contre le racisme structurel.
Bah c'est que d'un côté, en fait, le planning peut être interpellé d'un certain milieu d'être universaliste, blanc, etc. Et puis d'un autre point de vue qui est un autre point de vue d'être justement des islamo-gauchistes, tu vois. Et je trouve qu'effectivement, ce truc-là, alors de se faire un peu alpaguer de tous ces bords-là, c'est intéressant aussi. Parce que voilà, ça vient dire qu'en fait, c'est pas figé non plus dans une image, mais à l'image des équipes qu'on peut constituer, en tout cas ici au Planning 13, quoi. Ça bouge, c'est mouvant, et ça crée du débat, ça crée de l'engueulade, ça crée des changements, ça crée aussi des... ben, des trucs hyper sensibles aussi, où ça vient bouger les individus profondément, je crois, en fait, tous ces travaux-là.
Sur ces enjeux, comme sur d'autres enjeux, hein, pour le coup, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te pousse à crier et te donne envie de continuer aussi à le faire?
Eh ben, je crois que c'est m'être décomplexé de dire que ça me va pas, de dire qu'on a un problème.
Moi, je crois que je lutte, je crie. enfin, les fois où je crie, par exemple, vraiment, je veux dire, physiquement, de crier dans quelque chose, dans une envie, un besoin de transformation et de dire la colère, c'est quand même beaucoup dans des moments de manifestation, de crier des slogans. Quand je crie, c'est pour faire entendre ma colère, et c'est beaucoup quand même ma colère face à des violences, que ce soit les violences sexistes, les violences racistes, les violences policières, enfin tous les types de violences qui affaiblissent ni les personnes, des communautés. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas qui m'amène le plus souvent à crier.
Est-ce que tu as l'impression que ce cri est entendu?
Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand je crie dans ces cadres-là, il y a vraiment aussi le fait de... Quand je crie en manifestation, le fait de pouvoir crier avec d'autres est vraiment, fait vraiment partie de la force aussi du moment. Et d'être entendue par les personnes avec qui je crie, déjà. Et ensuite peut-être, pas beaucoup par rapport aux personnes que je aussi reconnais comme producteurs, en particulier, des violences dénoncées. Ben là, j'ai l'impression que non, dans l'ensemble, il y a de pas être entendu. Y retiemblen sus centros la tierra.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Cherbonnier.